messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête au sandale, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette d'internet.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, matinal, nous allons parler d'un festival qui se déroule ce soir. Ça s'appelle Oui, mais c'est ce soir à Mareuil. On en parle juste après le générique.
Regardez-moi, regardez-moi, voyons.
Pour m'accompagner ce matin, deux artistes du festival. On a avec nous Valem. Bonjour Valem.
Bonjour.
Vous êtes Valérie Moreau sous votre vrai nom. Valem, c'est votre pseudonyme d'artiste. On va parler un petit peu de votre œuvre et également de l'endroit où est-ce que va avoir lieu le festival, puisque ça se passe chez vous. Et on a également avec nous une autre artiste. On a Patricia Cronier-Zohar. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On va parler également, vous, de vos œuvres et également ce que vous exposez ce soir, du coup, à Mareuil. On va commencer, Patricia, par un peu la jeunesse du festival. C'est quoi cette envie de festival qui se passe à... Oui, pardon, Valem, qui se passe, du coup, chez vous.
Alors, c'est un festival, ça va être sa troisième édition. Donc, ça démarre ce soir pour l'inauguration et ça dure jusqu'à dimanche. Le principe, c'est... Donc il y a un fil conducteur qui est les liens qui tissent les vivants, et le but c'est de se donner de la joie à travers les arts pour dessiner des futurs positifs et désirables.
Alors vous, à la base, vous êtes ingénieur, il me semble, ou plutôt enseignante à l'Université technologique de Compiègne.
Alors je suis diplômée ingénieur de l'Université de technologie de Compiègne, puis plus tard je suis devenue enseignante à l'Université de technologie de Compiègne et j'ai arrêté en 2022 pour me consacrer exclusivement à la partie artistique de ma carrière que je menais en parallèle déjà depuis de nombreuses années à côté de ma carrière scientifique.
Un peu comme Batman quoi.
Ouais, en plus modeste.
C'était quoi là, votre filière? Vous êtes diplômée de quelle filière à l'UTC?
Mécanique, mais avec une filière design, une coloration design de mon diplôme en mécanique.
Donc là, le côté artistique, c'est le côté, vous, c'est plutôt du coup les sculptures, le côté plastique. C'était un lien justement un petit peu avec les études. C'était mettre un peu plus de folie que dans le design industriel, par exemple.
En fait, je suis venue chercher l'UTC parce qu'il y avait une formation au design et je m'étais dit que peut-être j'arriverais à concilier, on va dire, les attentes familiales d'aller vers des études scientifiques.
C'est les parents, c'est ça?
Ça joue forcément dans nos représentations et ça rassure. Et du coup, avec une fibre artistique. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en fait, le design industriel, ça n'allait pas suffire à mes envies d'expression artistique. Et du coup, j'ai préféré mener les deux en parallèle. Et en fait, j'ai jamais réellement exercé dans le domaine du design industriel.
Vous évoluez toujours à l'UTC puisque vous faites parfois, vous animez parfois des ateliers, par exemple pendant la semaine de l'égalité ou le mois de l'égalité à l'UTC. Qu'est-ce que vous avez fait donc pendant ce mois-là?
Alors, j'ai animé un atelier qui s'est déroulé en deux parties, deux fois deux heures, entre midi et deux, avec un groupe de personnes. Donc, il n'y a eu que des femmes, une douzaine de femmes qui se sont inscrites à cet atelier sur le thème « Femmes et sciences » cette année. Et donc, chacune a réalisé une sculpture sur cette thématique et on a fait ensemble ensuite une exposition qui a duré deux semaines à la bibliothèque universitaire de l'UTC.
Vous avez vu une évolution avec les étudiants entre quand vous étiez étudiante et aujourd'hui? Est-ce que l'UTC est un peu à part dans son fonctionnement, dans la façon dont ils donnent les cours, les universités, enfin les associations, les UV, etc. Est-ce que les étudiants sont différents sur l'approche avec l'art parce qu'au moins il y a des expositions d'art?
C'est assez émergent, en fait, effectivement, le fait d'avoir des arts visuels un peu plus présents, avec notamment l'association MET qui s'est créée il y a quelques années et qui organise des expositions d'art. J'espère que ça va continuer à perdurer parce que je pense qu'il y a une vraie appétence pour ça. Et je l'ai vu, il y avait quelques étudiantes notamment qui étaient présentes dans l'atelier que j'ai fait. Et il y a une vraie attente, une vraie demande. Pour l'instant, ce n'est pas encore aussi ancré que la musique ou les arts du spectacle, etc., où il y a des associations qui sont là depuis des décennies et qui fonctionnent super bien. Donc là, c'est en émergence et j'espère que ça va s'ancrer dans l'UTC. Ouais.
Il y a des élèves qui méritent un peu l'attention des auditeurs, qui vous dites « Ah, là, il y a quelque chose quand même à creuser. Peut-être que son diplôme d'ingé, dans 5 ans, ils vont l'arrêter. Ils vont plutôt embrasser une carrière d'artiste. »
Ça, je pense que c'est assez structurel, en fait, à l'UTC. Je ne sais pas si c'est plus maintenant... En tout cas, moi, je sais que dans mon réseau de diplômés, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui ont un métier artistique, soit qui ont décidé de l'exercer directement après l'obtention de leur diplôme, soit qui ont passé le cap quelques années ou quelques décennies plus tard. Et je pense qu'une des propriétés, par contre, qui est vraiment importante à l'UTC, c'est... justement cette capacité de rebondir sur des choses différentes, artistiques ou non, mais en tout cas les revirements de carrière, les changements de carrière, c'est des choses qui sont très très fréquentes parce qu'il y a cette, il y a une forme d'ouverture et de capacité d'adaptation et de, voilà, de passer de, à différentes choses qui est assez forte chez les UTC1 et la dimension artistique. Bah, comme elle est très présente dans le milieu associatif, bah, c'est un lieu, pendant nos années d'études, où on expérimente des choses et ça ressurgit parfois plus tard dans nos vies, quoi.
Patricia, vous aussi, vous avez expérimenté quand vous étiez étudiant, vous avez fait des études avant de devenir... vous êtes artiste au quotidien, c'est votre façon de manger, on va dire, c'est ce qui vous fait gagner votre argent.
Moi, ça l'a toujours été, puisque je suis née dans une famille d'artistes, donc pour là, le problème ne se présentait pas, c'était naturel.
Tu vas quand même pas faire ingénieur.
Donc je me pose des questions, si tu veux. Et donc, moi, j'ai fait l'École supérieure des arts appliqués à Paris, du Perret, qui ouvre sur énormément de techniques et de possibilités, tout en ayant à la base une forme classique, donc il y avait plus l'huile, etc. Et c'est, bah, comme il se prévient, progressivement, on a quelque chose en nous qui est plus fort que nous. Donc, comme on disait, une fois que tu as des bases, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est le plus important, avoir ses bases. Après, on peut faire ce qu'on veut. Et moi, j'ai découvert le stylo à billes, Bic, Cristal. J'ai pourtant pas eu l'occasion de gribouiller pendant les cours, puisqu'on dessinait en permanence, presque. Et c'est principalement avec cet outil que je me suis fait connaître.
Alors justement, expliquez-nous un petit peu votre technique, parce que vous, contrairement à Valem, c'est plutôt de l'aplat, hein, c'est du papier, de la peinture et du stylo. Comment c'est venu le fait d'arriver à du coup quelque chose de très réaliste, très détaillé, avec du stylo à billes ?
Bah, réaliste et détaillé, je pense que ça vient du fait que j'ai une formation classique, donc j'ai mes bases et je sais dessiner. Et après, bah, le côté, mon univers est assez imaginaire. Donc réaliste, mais imaginaire. Et le stylo, j'ai trouvé que c'est vraiment un outil formidable parce qu'avec un seul outil, on a tout. C'est-à-dire en appuyant plus ou moins, on a toute une gamme de gris. On peut avoir des noirs assez noirs sans avoir le problème de l'encre de Chine qui est noire, du crayon qui est gris. Donc c'est vraiment un outil qui m'a charmée. On ne peut pas gommer, mais c'est ça qui est bien parce que ça nous ouvre sur encore plus de possibilités. Puisque bah, le trait, on va légèrement. Et puis après, bah, on assure et on s'adapte aux possibilités qui nous sont offertes.
Vous avez commencé avec la peinture à l'huile.
Oui.
C'était quoi ? C'était vraiment le côté classique, du coup, la peinture à l'huile ou... Pourquoi vous avez commencé par la peinture à l'huile ? C'était l'école qui...
Bah, j'ai commencé par la peinture à l'huile parce que l'école, c'était une formation... classique, donc on a pris l'aquarelle, le pastel, l'huile, en fait toutes les techniques classiques. Le stylo n'est pas une technique a priori qu'on enseigne. Enfin, j'ai jamais vu d'enseignement du stylo. Maintenant, ça vient parce que au départ, j'étais un peu, je reconnaissais pas le stylo comme un outil qui se présentait. Donc j'avais des carnets remplis de dessins stylos, mais je présentais que mes huiles, mes autres. Et c'est quelqu'un qui a vu mon travail au stylo, mais qui m'a dit « il a sa place ». Et dans ma tête, non, c'était des croquis. Et finalement, cette personne avait raison, parce que quand le stylo, c'était vraiment moi. Et quand j'ai présenté ce qui était vraiment moi, et ben c'est, voilà, j'ai tout de suite eu une reconnaissance de mes pairs où ils ont vu qu'il y avait quelque chose.
Et pourquoi vous avez peur de mettre en avant le stylo ? C'est le côté un peu populaire du stylo ? On a peur de cet outil ? Parce que quand on pense à la peinture à l'huile, on pense aux grandes œuvres, voilà, quelque chose de très classique qu'on peut retrouver dans des musées. Alors qu'on pense plus au stylo Bic, la personne à la maison qui n'a pas trop d'argent et puis qui a son stylo Bic et qui fait ses choses, quoi.
C'est lié, comme je dis, principalement à le fait d'avoir une formation classique où pour moi, le stylo, c'était faire des petits croquis de recherche vite fait. Donc, ça ne m'était pas venu à l'idée de le pousser autant. Et progressivement, en fait, le fait que il soit reconnu, enfin qu'on m'ait reconnu avec le stylo. Alors là, je me suis mis à le pousser à un extrême, aller jusqu'à, récemment, j'ai repris, là je me suis fait un petit plaisir, j'ai repris le Radeau de la Méduse de Géricault, que j'ai transposé, donc j'ai refait en grand format, au stylo, mais dans mon monde, c'est-à-dire c'est plus des êtres humains, c'est des bestioles, bon j'aime bien les gargouilles, donc c'est des bestioles un peu fantastiques. Donc je relis parfois les deux.
Le festival 8 mai à Mareuil donc, démarre aujourd'hui avec inauguration ce soir, cet après-midi, tous les scolaires qui viennent. Quels sont les artistes qu'on va pouvoir retrouver? Quels sont les styles? Donc là, on a vu plutôt des choses à plat. Donc là, vous allez présenter uniquement des choses au stylo bic ou il y a des choses qui seront des aquarelles et des peintures que vous allez présenter?
Non, que des stylos bic. Et puis justement, lors du festival, Valem organise énormément d'activités variées. Et donc, elle a demandé aux différents artistes qui voulait bien de participer pour offrir plus, parce que son festival, c'est vraiment regrouper les gens, un échange, offrir plus. Et donc, à cette occasion, ben moi, je vais animer un atelier où je vais faire découvrir, justement, le stylo, comment on utilise le stylo.
On parle des artistes qui seront présents aujourd'hui ?
Ouais. Alors, il y a une grosse exposition d'art. Et donc, je me suis entourée de cinq autres artistes pour cette expo. Il y a un petit fil conducteur spécifique cette année autour du thème art et science. Et donc, on a Servan qui vient présenter des photos. Elle est scientifique au CNRS. Et c'est des photos de microscopes. Et donc, c'est voilà, des grands formats de photos de microscope qui sont assez magnifiques. On a Ingrid, qui est plasticienne et donc voilà, qui va apporter aussi d'autres choses. Donc, mis en 2D aussi, mais à partir d'éléments qu'elle prélève aussi dans la nature, etc. Patricia en a déjà parlé. Un autre photographe aussi, Pierre-Yves Payet, qui m'accompagne beaucoup dans mes expositions, qui photographie souvent mes sculptures, mais qui a aussi son propre travail, et là qui présentera plutôt des photos de vivants, animaux et végétaux. William qui sera pas encore là pour l'inauguration, mais qui nous rejoindra plus tard et qui va présenter des photos des îles Kerguelen dans lesquelles il a eu l'occasion d'aller dans un cadre plutôt scientifique et en même temps de photographe. Pareil, il a la double casquette, un ancien de l'UTC aussi, qui a été un de mes étudiants quand j'étais prof et que je suis très contente de revoir aussi à cette occasion. Et après, on a aussi donc du spectacle vivant. Tous les après-midi, on a deux à trois spectacles avec du théâtre et de la danse, notamment. Et les ateliers le matin qui sont animés par des artistes qui sont présents sur le festival, soit en tant qu'exposants, soit en tant que comédien, comédienne, danseur, danseuse, etc.
On va pouvoir parler après du prix, puisque c'est prix libre et conscient. On expliquera un peu qu'est-ce que c'est. Juste avant, écouter un extrait d'un artiste qu'on connaît bien plutôt chez nous, hein, puisqu'il a eu plein de noms d'artistes. Là, ça s'appelle Verpagaille. On écoute le titre Cause. On se retrouve juste après. Et c'est eux qui ouvrent le festival aujourd'hui à partir de 18h pour l'inauguration. Donc le titre Verpagaille, Cause.
Il faut sauver les enfants des famines et des spéculations. Les émeutiers vont sur le champ faire la révolution. Il y a ceux qui servent des causes, il y a ceux qui se servent et qui causent. Il y a ceux qui servent des causes, il y a ceux qui se servent et qui causent. Autour d'eux, la misère sur laquelle ils n'osent ouvrir les yeux. Les bourgeois ont bien profité des femmes et de leurs protestations, mais pas de place à l'assemblée, retour à la maison. Il y a celles qui servent des causes, il y a ceux qui s'en servent et qui causent. Il y a celles qui servent des causes, il y a ceux qui s'en servent et qui causent. Autour d'eux, la misère à laquelle ils s'opposent, un jour sur deux. Bien se faufiler entre les régimes et les partis, embraser les rivalités, récupérer les cris. À chacun son but, son adversaire, la convergence des luttes, c'est une guerre. À chacun son but, son adversaire, la convergence des luttes, c'est une guerre. À chacun son but, son adversaire, la convergence des luttes, c'est une guerre. À chacun son but, son adversaire, la convergence des luttes, c'est une guerre. À chacun son but, son adversaire, la convergence des luttes, c'est une guerre. Dans laquelle il y a celles qui servent des causes, ceux qui s'en servent et qui causent.
Du 7 au 10 mai, rendez-vous à Mareuil-la-Motte pour le festival 8 mai. Un festival d'art dans le pays des sources pour explorer dans la joie notre relation au vivant à travers l'art. Avec une exposition collective, des ateliers, des spectacles, des performances et des concerts. Le festival 8 mai, c'est du jeudi 7 au dimanche 10 mai à Mareuil-la-Motte. Restauration sur place, contribution libre et consciente. Retrouvez toutes les informations sur le site 8mai.org.
Toujours en compagnie de Patricia et de Valem pour nous parler de ce festival qui a lieu aujourd'hui, qui ouvre aujourd'hui à 18h avec l'inauguration, avec l'artiste Verpagaille, donc un duo que vous pourrez retrouver avec notamment La Cause. Tout à l'heure, on parlait du prix libre et conscient avant de faire cette coupure pause musicale. C'est quoi un prix libre et conscient ?
Alors, le principe d'un prix libre, c'est que les personnes donnent ce qu'elles veulent. Et conscient, parce qu'on les informe du coût. En fait, que ça. Donc, en fait, on donne des tarifs indicatifs pour leur permettre de se repérer, parce que c'est pas simple, en fait, de dire bah, donnez ce que vous voulez, et les gens, en fait, ils sont potentiellement un peu perdus parce qu'ils savent pas s'ils donnent trop, s'ils donnent pas assez, etc. Et donc, pour leur permettre d'être à l'aise avec ça, on leur donne des tarifs indicatifs. Pour la nourriture, par exemple, il y aura 3 tarifs qui seront proposés. Un tarif solidaire qui prendra en compte uniquement les consommables, la nourriture. Un tarif équilibre qui permet de prendre en compte un peu plus le matériel et un tarif qui sera un tarif soutien, qui permet de prendre un peu plus l'environnement du festival en considération.
Vous êtes également en couple avec Stéphane Croza, qui anime une émission à la radio, qui fait quelque chose justement sur le low-tech, sur un peu une philosophie de pensée, de gestion de la société, on va dire. C'est quoi, ça infuse chez vous, cette volonté politique ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on enseigne à l'UTC ? Parce que vous y êtes tous les deux anciennement enseignants à l'UTC. Du coup, ça infuse ou pas ?
Je pense qu'on s'infuse mutuellement, effectivement.
Je crois qu'il y a des UTCiens, il y a d'autres UTCiens qui viennent aussi également participer à l'événement.
Ouais. En fait, Stéphane Croza, ça fait longtemps que lui, il est engagé dans le domaine du libre, du logiciel libre, etc. Donc, il y avait un engagement de sa part autour du numérique là-dessus. Et puis moi, à partir de 2018, j'ai pris conscience de la nécessité de s'engager fortement autour des enjeux socio-écologiques. Et donc, j'ai commencé à travailler, à infuser ça au sein de l'UTC. Ça a résonné avec son engagement autour du libre. Il y a des liens qui se sont créés. Et aujourd'hui, il s'est emparé aussi de ces sujets-là pour les associer et continuer à les promouvoir au sein de l'UTC.
Là, le choix de faire 3 tarifs différents, différenciés, comment vous aviez réfléchi ? Vous l'avez vu ailleurs ? Comment c'est venu ça ? Parce que souvent on est sur le schéma classique, il faut qu'on rentre de l'argent dans la structure.
Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, cette contribution libre et consciente. Je l'ai expérimenté dans d'autres cadres associatifs. J'avais vu des choses autour de ça, donc ça m'a interpellée. Et en fait, un des objectifs du festival, c'est de réinventer des manières de faire société autrement. Donc, via une réflexion, via les arts, via de la joie, via le fait de faire de la fête. Donc ça, c'est hyper important, mais aussi d'expérimenter un autre rapport au monde, un autre rapport aux autres, aux autres vivants. Et du coup, l'argent, c'est quand même quelque chose qui est hyper structurant dans notre société. Et donc, d'expérimenter un autre rapport à l'argent, ça me paraît quelque chose d'essentiel pour envisager de faire autrement, avec des rapports qui soient basés sur la confiance entre les personnes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très structurant pour nous dans le festival.
Alors, en plus, vous expérimentez dans un village, parce que vous êtes à Mareuil-la-Motte, petit village, je crois que Léo l'a dit, c'est Pays des Sources. Comment a reçu le village? Comment la municipalité s'est dit « Ah, bah, c'est cool, il y a un festival ». Vous leur demandez de l'argent? Vous leur demandez une subvention ou pas du tout?
Ouais, on est soutenu par la mairie. En fait, la première édition, c'était vraiment totalement expérimental. Je suis partie vraiment un peu toute seule pour lancer ça. Il n'y avait pas d'association et tout ça, donc c'était vraiment moi qui était un peu seule là-dessus. Mais à partir du moment où on a décidé de pérenniser ça, on a monté une association et l'association est soutenue depuis l'année dernière par la mairie. Et elle s'est très bienvenue dans le village. Mareuil-la-Motte, c'est un super village. Il s'y passe plein de choses.
Ça, c'est la subvention qui fait dire ça.
Non. Mais moi, j'y vis depuis 2004. On a eu un coup de cœur sur ce village et on n'est vraiment pas déçus. Il y a une fibre artistique et il y a un grand nombre d'associations dans ce village. Il y a une fête de la musique qui est incroyable là-bas tous les ans. Enfin, et donc, il y a une vie associative qui est super riche. Et qui est vraiment bienvenue. Et d'ailleurs, quand j'ai été présenté le projet au Pays des Sources, ils m'ont dit « Mais c'est encore à Mareuil !» Et voilà, c'est devenu un peu un centre névralgique de d'émulation positive autour de la culture, des arts, etc. Pour la communauté de communes, je pense.
Et les voisins viennent, parce que souvent, quand on organise quelque chose, c'est plutôt les voisins lointains qui viennent, pas forcément les voisins qui sont à côté de la maison.
Alors, on a tout. On a effectivement des gens qui viennent d'assez loin. On a les voisins les plus proches. Bah, de toute façon, je pense qu'ils ils en profitent parce qu'on fait un petit peu de bruit. On est un peu visible, donc ils en profitent directement. Les voisins directs contribuent même à héberger des festivalières, des festivaliers, des artistes surtout, des bénévoles, etc. Donc ils sont assez impliqués. Et là, on a une autre personne du village qui est venue l'année dernière, qui a proposé aussi de l'hébergement. Donc l'idée, c'est d'ancrer au fur et à mesure des années cet événement au sein du village et de créer un maximum de liens entre les habitants du village, les artistes, les personnes qui viennent de plus loin aussi pour y assister. Voilà, je pense que ça va se faire aussi petit à petit au fur et à mesure des années. Il y a des personnes au début qui étaient un petit peu, je pense, impressionnées par le fait de... déjà, c'était pas sur la place du village, ça se passe chez moi, comme vous l'avez dit, dans mon atelier. Donc, faut le fait de rentrer, puis le fait qu'il y ait une exposition d'art, des choses auxquelles ils ne s'étaient pas forcément habitués au sein du village, etc. Mais je pense que ces barrières, elles vont petit à petit tomber et qu'au contraire, on va avoir de plus en plus de personnes du village qui vont venir contribuer. Ouais.
Comment s'est passée la programmation des artistes? C'est un appel à manifestation? Comment vous avez programmé Patricia? Est-ce que c'est Patricia qui a fait une demande? Est-ce que vous connaissiez avant?
En fait, c'est des rencontres, beaucoup. Patricia, on s'est rencontrés au cours d'une exposition. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois au Grand Palais aux artistes français. Et puis, on a covoituré ensemble sur une exposition à Salouel. Et voilà. Et en fait, en discutant, il y avait une compatibilité de nos univers, de nos approches, de notre façon de voir le monde, qui faisait qu'il y avait une forme d'évidence en fait à lui proposer de venir exposer ici. Et donc ça se fait pas mal par le réseau. On est une dizaine de bénévoles impliqués à l'année en fait sur l'organisation de cet événement, en plus des bénévoles qui viennent ponctuellement le jour J. Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'artistes aussi dans mon réseau, et donc on croise des spectacles qui nous interpellent. Des gens qui nous font vibrer, et donc on va leur proposer. Ça se fait plus comme ça, en tout cas pour l'instant.
Vous êtes à Pierrefonds, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous êtes du coup influencé par le village, parce que le Bestiaire, Pierrefonds?
Alors c'est presque l'inverse. Je n'irai pas dire que j'ai influencé le village, c'est pas du tout. Mais en fait, j'habitais moi la région parisienne et j'ai découvert Pierrefonds par hasard. Et ça a été un coup de cœur. Je me suis sentie chez moi, justement, ce Bestiaire. J'ai dit, mais Mais c'est moi, je me suis retrouvée dans ce village à un tel point que j'ai dit, bah, je déménage, je vais habiter là parce que voilà, mon univers, il est là, je suis fait pour être là. Donc c'est...
Parce que Viollet-le-Duc a repris en fait, des animaux qu'il a remis, la salamandre, le dragon, sur une partie du château, c'est ça ?
Ah bah, c'est pas qu'il a repris. De toute façon, c'est Viollet-le-Duc qui a eu carte blanche pour restaurer ce château. Viollet-le-Duc, bah oui, il est connu entre autres pour ses gargouilles, ses bestioles fantastiques. Et c'est tout à fait mon univers. Donc vraiment, ça a été, quand je suis rentrée dans le château et que j'ai vu toutes ces... Ah, je m'y attendais pas. Non, c'est un grand coup de cœur, un coup de foudre. Et quand on a un coup de foudre, on suit.
Comment s'est passé, du coup, comment ça se passe dans le village à Pierrefonds aussi ? Il y a d'autres artistes ? Est-ce que vous faites des réunions d'artistes de Pierrefonds, des Pétrifontaines et Pétrifontains ?
Alors, c'est tout nouveau. Parce que en fait, donc moi, ça fait que 4 ans que je suis à Pierrefonds, mais il s'avère que j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Mattei, qui est très actif et qui est là depuis très très longtemps et connaît énormément de monde. Et je me suis rendu compte qu'à Pierrefonds, vous êtes une quantité d'artistes, mais pas possible, et vous ne vous connaissez pas entre vous. Donc il a dit, c'est dommage. Et il est parti pour organiser, donc ça commence cette année, nous. On est un peu en... Enfin, moi j'ai plus une carrière internationale de différentes choses et j'ai été introduit pour L'Art en chemin, qui est un événement qui se situe dans Touloise. Et Bruno Mattei a eu l'idée de fonder une association, de fonder un groupe qui s'appelle Pierrefonds Terre d'Artistes. Et de là, ou talent, j'ai un doute finalement, j'ai pas encore bien le...
C'est pareil, c'est presque pareil.
C'est pareil, c'est les talents. Enfin, et donc de grouper le jour de l'inauguration de L'Art en chemin qui aura lieu à Pierrefonds, ce jour-là, de faire, donc c'est le samedi 30 mai, de faire sur la place du village, d'inviter les artistes qui exercent à Pierrefonds d'être présents. Et un peu, ça rejoint un peu Valem dans le sens où les artistes qu'il a invités, mais bon, la référence, il fallait que la personne habite Pierrefonds. Et il y a des magiciens, des musiciens, des chanteurs, des danseurs et puis des bardomes avec des artistes, des sculpteurs, des peintres.
Donc l'année prochaine, un jumelage entre Marie Lamotte et Pierrefonds.
Pourquoi pas ?
Et est-ce que vous avez travaillé sur de l'ouvrage, sur des bouquins ? En fait, votre œuvre pourrait être de l'illustration de contes. Est-ce que c'est le cas ?
Non.
Je sais que c'est un peu deux univers. Je sais que souvent, le côté illustrateur-illustratrice, c'est vraiment un univers un peu à part. Certains font de la peinture, du dessin, un peu pour se défouler, on va dire. Et puis quand c'est une commande d'illustration, ça, c'est pas du tout le même boulot.
Bah, le côté commande d'illustration, enfin livre, etc., ça ne m'intéressait pas dans le sens où, quand on a créé un personnage, une chose, après, c'est le même qui évolue dans son univers. Et moi, chaque dessin, c'est un univers, une histoire elle-même. Par contre, par moment, j'aime bien travailler sur des séries. Donc, il y a une période où j'ai fait la mythologie grecque. Donc j'ai pris Chronos et Réa, les titans, qui ont donné naissance aux 6 premiers dieux. J'ai pris tous les symboles. Dans chaque personnage sont regroupés tous les symboles qui racontent l'histoire de ce dieu. Et de là, vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'en ai fait un livret. Donc il y a un petit livre qui accompagne cette histoire des 6 premiers dieux. Mais c'est vraiment... et puis c'est pour expliquer tous les éléments qui sont dans ces dessins.
Et vous, Valem, du coup, sur vos œuvres, sur les sculptures, vous êtes du coup sur la terre à la base, j'imagine. Et ensuite, c'est parti sur le bronze.
Alors, mon matériau de travail, c'est la terre. J'en ai essayé d'autres, mais je reviens toujours à la terre.
Vous avez essayé quoi ?
J'ai essayé un peu le plâtre, j'ai essayé la taille aussi, direct, dans la pierre, un petit peu dans le bois. Mais voilà, mais là, mon matériau de prédilection, c'est vraiment la terre.
C'est dommage parce que la pierre, à Marie Lamotte, il y avait les carrières. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Non, j'ai renoncé. J'y reviendrai peut-être par moment, mais Et donc, en effet, j'ai un certain nombre de bronzes qui ont été produits à partir de certaines de mes terres cuites. Sur mes dernières créations, depuis début 2023, c'est essentiellement des terres cuites. D'abord parce que c'est des pièces qui sont extrêmement complexes et donc qui sont très difficiles à mouler, parce que pour arriver jusqu'au bronze, il y a un processus de moulage. Et parce que là, j'ai trouvé une terre aussi qui est magnifique. Et qui, du coup, sans patine, sort du four avec des effets incroyables. Et donc, le rendu est superbe. Et le fait de garder ces pièces en pièces uniques aussi, je trouve ça assez chouette. Donc, pas mal de terre cuite.
Qu'est-ce que vous aimez dans la terre ? Parce que dans les autres techniques, à chaque fois, on retire de la matière. Là, la terre, on peut en retirer, en rajouter. C'est quoi qui vous attire dans le mettre les mains dans la boue, quoi ?
Le côté de salir les mains, je trouve ça assez sympa. Et j'aime bien l'idée que quand je commence quelque chose, je ne sais pas où ça va s'arrêter physiquement. Dans la taille, on est limité par la taille originale de la pierre ou du bois. Et là, parfois, je me dis, c'est une pièce, je vais essayer de faire petit. Hein. Et puis, en fait, elle fait 4 fois ou 5 fois les dimensions que j'avais prévues initialement parce qu'elle m'emmène. Elle m'emmène là, elle m'emmène ailleurs. Et j'aime bien cette idée de ne pas avoir de limite au départ. Après, c'est un matériau qui a pas mal de contraintes et donc qu'il faut apprivoiser, mais qui donne aussi beaucoup de liberté et qui donne un droit infini à l'erreur. Et qu'on peut reprendre jusqu'à ce qu'on obtienne réellement ce qu'on est venu chercher.
Quels sont les visuels qu'on peut voir ? Parce que du coup, il y a des animaux, des portraits. C'est quoi ? C'est des périodes ? Tout est un peu mélangé ?
Le festival se passe à mon atelier. Il y aura un grand nombre de sculptures qui seront présentées, plus que quand je vais dans des expos collectives où je suis à domicile, donc je peux montrer beaucoup de pièces. J'ai trois thèmes au départ. Le nu d'après modèle vivant qui a été
Le départ,
en fait, c'est par là que j'ai commencé, que j'ai appris. Ensuite, l'animalier, parce que dès que j'avais pas de modèle vivant, c'était vers les chevaux d'abord, puis plus largement vers les autres animaux que je me suis tournée. J'ai une période aussi pendant laquelle j'ai travaillé quasiment exclusivement sur mes souvenirs du Sénégal. Donc là, il y a un certain nombre surtout des femmes d'ailleurs, qui sont ressorties et qui ont ressurgi de ces souvenirs, des enfants aussi. Et donc beaucoup de portraits. Et depuis 2023, en fait, le végétal s'est introduit dans ma production pour venir réunir l'humain, l'animal. Et donc les dernières créations, c'est des hybridations entre humain, animal, végétal, avec quelque chose de beaucoup plus onirique que ce que je faisais auparavant. Et peut-être d'un peu plus personnel aussi et de plus engagé.
Vous avez toutes les deux des œuvres à vous dans vos maisons ou tout reste dans les ateliers ? Est-ce que vous êtes débordé par vos œuvres à la maison ou est-ce que non, pas du tout ? Vous avez plutôt des camarades, des œuvres d'autres camarades chez vous ? C'est quoi un petit peu ?
Moi, j'ai des œuvres de collègues, pas forcément des grands trucs, parce que les artistes, contrairement à ce qu'on peut penser parfois par rapport au prix justement où on vend nos œuvres, on ne gagne pas grand-chose. Parfois, quand j'ai fait des belles ventes ou autres, je me fais plaisir en achetant un collègue. Donc, j'ai quelques œuvres de collègues. Et puis, j'ai aussi les miennes. Ça me permet en même temps d'avoir un recul sur ce que je fais. Et puis, l'avantage d'avoir les siennes, c'est que j'en ai un stock. Et donc, je peux changer. J'accroche l'une, après j'accroche l'autre. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup plu dans Valem, c'est qu'en fait, en l'écoutant, je me rends compte que on a des univers et une façon auquel elle a besoin de sentir, toucher la terre et puis partir dans son imaginaire. Et moi, mon stylo, le papier, je ne pourrais pas travailler sur une tablette numérique. J'ai besoin de sentir, d'appuyer plus ou moins, etc. Et pareil, de partir dans, dans mon délire. Elle, sa sculpture évolue selon la façon dont sa terre, elle perçoit, elle ressent les choses qui apparaissent. Et moi, bah, le stylo, c'est marrant parce que c'est la même chose directement. J'appuie, j'avance, j'ai une idée. Au départ, on a une idée générale, mais notre outil, faut rester l'esprit ouvert, et notre outil nous emmène parfois au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça qui est formidable dans la création, c'est cette possibilité d'aller au-delà de ce que même on avait imaginé au départ.
Le dépassement de soi, quoi. Un peu ça.
Je sais pas.
C'est un peu ça, hein, en fait. C'est passer d'un sentiment personnel, en plus aller l'amener pour créer un sentiment chez le spectateur ou la spectatrice, c'est quand même... Voilà. Et pour vous, Valem, du coup, les œuvres chez vous ?
Alors, ouais, la sculpture, c'est hyper encombrant.
Ah ouais, j'imagine.
C'est pas simple à stocker. Et on n'a jamais assez de place. Puis plus on a de place, plus on a envie de faire grand. Bah. Et plus on fait grand, moins on a... Non, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, j'ai pas trop de sculpture autre que les miennes à la maison. Si ce n'est pas mal de souvenirs du Sénégal et donc de sculptures en bois. Donc qui sont quand même très présentes chez moi. Et je commence à avoir sur les murs des quelques collègues aussi qui arrivent. Pareil, en fonction des moyens aussi, j'aimerais bien de temps en temps me faire un peu plus plaisir, mais voilà, ça va se faire petit à petit, j'espère.
On va réécouter un extrait de la programmation de Radio Graphite. On vous rappelle le festival 8 mai à Marœuil-la-Motte aujourd'hui, l'inauguration à partir de 18h, donc ce jeudi 7 mai. Et ensuite, ça sera tout ce week-end avec ouverture de 10h à 19h vendredi et samedi, et également de 10h à 16h le dimanche, avec exposition, spectacle et performance, atelier sur inscription dans les limites des places disponibles, et également concert. On vous a dit tout à l'heure vers Pagaille. Il y aura Sony Side Up, Fernatol Twins, Happy Thursday, Sextet et Total Rectal. Ça sera pour le jeudi, vendredi et samedi. Le dimanche, c'est plutôt à la cool. On vient visiter. Voilà,
il y a une grosse scène ouverte le dimanche après-midi.
Ah, si vous faites un bœuf le dimanche après-midi.
Alors, c'est pas un bœuf, c'est plus scène ouverte. Enfin, il y aura des bœufs après tous les concerts. On garde un temps de bœuf après les concerts. Et la scène ouverte, c'est plus pour du spectacle vivant. C'est plus, plus acoustique, en fait. On a, voilà. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir faire un petit passage de 5 minutes pour présenter quelque chose, c'est hyper bienvenu.
Prenez vos instruments.
Quand les voix montent et défilent interdits du côté des plus petits. Quand la joie change de camp, tu te dis combien la lutte est jolie. La 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 la. Quand loin d'ici l'autre est renié, meurtri, c'est tout en toi qui fait chier. Se maintenir debout, c'est se rappeler aussi combien la lutte est jolie.
Radio Graphite 94.9, www.graphite.net. Également, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable sur le site de la radio. Et puis maintenant, vous pouvez nous retrouver également sur Radio Player, une application gratuite que vous pouvez télécharger. Et dessus, vous trouverez plein de radios, notamment associatives. Il y a une petite onglet qui s'appelle Les Locales où vous pouvez retrouver plein de radios asso. Mais vous pouvez également retrouver toutes les radios du service public sans pub. On continue de parler du festival qui se prénomme 8 mai à Mareuil-la-Motte. Ça commence ce soir, on l'a dit tout à l'heure, à 18h pour l'inauguration, avec donc Verpagaille qui va ouvrir le festival. Tu me parlais juste avant un petit peu des horaires. Est-ce qu'il y a du coup un petit détail à donner sur les horaires de concert ?
Oui, en fait, on demande aux personnes d'arriver avant 19h30, donc avant le début des concerts, pour être accueillis, parce que comme on l'a expliqué, le festival, il a un fonctionnement qui est particulier, avec notamment la contribution libre et consciente, etc. Et donc, ça nécessite un peu d'explication en entrée et tout ça. Et donc, on demande aux gens d'arriver avant les concerts pour avoir cet accueil. Et ensuite, à 19h30, on ferme les portes et toutes les personnes qui sont présentes peuvent profiter des concerts. Il n'y a pas d'entrée pendant la soirée au milieu des concerts, quoi.
Ouais, le but, c'est que la soirée soit voilà, tout simplement mieux organisée. C'est pour vous aussi également, pour éviter d'avoir des gens à l'entrée.
Et ouais, c'est ça. C'est pour que tout le monde puisse vraiment profiter au maximum de ces soirées, qu'elles soient festives et qu'il n'y ait pas des personnes qui soient d'astreinte à gérer l'accueil pendant ces moments-là, quoi.
Alors, il y a une dernière chose qu'on n'a pas parlé, c'est l'activité transversale. Qu'est-ce que c'est l'activité transversale du festival ?
Alors, il y a une œuvre collective qui va être filée en fait pendant tout le temps du festival. C'est ça, on l'a fait depuis le début et ça fonctionne assez bien. Et cette année, ce sera sous la forme d'une mosaïque à base de carreaux cassés de récup de différentes couleurs. Et donc, il y aura la possibilité de venir coller ces petits bouts de carreaux pour enrichir cette mosaïque qui va être donc sur un grand mur qui est visible depuis la rue. Et donc, il restera. Le principe de l'œuvre collective, c'est qu'elle reste visible toute l'année jusqu'au festival suivant. Et ensuite, elle est remplacée par la nouvelle œuvre collective qui arrive au festival suivant.
Donc, c'est œuvre collective, pas seulement des artistes, mais également des festivaliers surtout.
Là, c'est surtout des festivaliers. Ouais. C'est les festivaliers qui vont. Alors, les artistes qui sont présents peuvent tous venir apporter une petite contribution à cette œuvre collective et ce sera hyper bienvenu. Hein, ça a été le cas, évidemment, au cours des années précédentes. Mais les festivaliers de tous âges, les enfants comme les adultes, sont invités à venir participer à cette œuvre collective.
Il y a une visite de potager en permaculture ?
Ouais, il y a plusieurs visites, effectivement. Donc, c'est le dimanche.
À midi, ouais.
Ouais, le dimanche. Donc, c'est tous les jours, en fait,
J'ai midi,
ouais, midi, c'est ça, c'est tous les jours de midi à 13h, il y a des visites. Et donc le dimanche, il y a, en fait, comme ça se passe dans notre jardin, on a un potager permaculturel qui commence à prendre pas mal tournure depuis quelques années. Et donc Stéphane Groza, qui gère ce potager, partage avec les personnes qui le souhaitent ses expériences autour de la permaculture et aussi assez demandeur de partager les expériences des personnes qui viendront suivre la visite, parce que c'est vraiment très expérimental. C'est assez chouette.
Et ça rentre à 100% dans le thème qui est les vivants et les liens qui tissent, quoi.
Exactement. Et il y aura le samedi aussi une visite du biotope de Mareuil qui sera organisée, même horaire, autour d'un étang. Avec un jeune qui est spécialiste des zones humides et qui vient participer au festival, qui a découvert le festival l'année dernière, qui a adoré et qui du coup a proposé d'animer aussi cette activité.
Donc là, on vous retrouve ce week-end pour les ateliers et puis pour les expositions. Patricia, on vous retrouve où après du coup Mareuil-la-Motte ? Où est-ce que sont les prochaines expositions ?
Oh là là !
Oh là là, il y en a beaucoup ?
Oui. Et c'est vrai, depuis quelques temps, j'ai un petit faible pour les festivals, puisque je vais faire le festival des Ludions, par exemple. Ça, c'est le suivant, juste après. D'ailleurs, 3 jours après, je repars. Donc, c'est à Carole, c'est en face du Mont-Saint-Michel. Et c'est des fonctionnements. Là, c'est tout le village qui se transforme. Les artistes occupent les maisons et les grands espaces des habitants. En fait, on les déloge, on prend leur place. Non, pareil, de la musique, du théâtre, etc. Donc oui, j'ai un fait pour les festivals. Après, il y a l'Arrangemin, il y a Pierrefonds. Après, j'ai à Alençon, l'Art sur le fil. Je refais un festival à Échalas cet été. Enfin bon, oui, je suis artiste professionnelle, donc c'est simple, soit je dessine du matin au soir, soit je monte mon travail, parce que c'est le seul moyen de se faire connaître et avoir une certaine clientèle, des ventes pour pouvoir continuer à en vivre.
Et la question, comment ils sont mis en avant les œuvres, c'est du coup ils sont encadrés, c'est comment, parce que si vous voyagez autant, ça peut être tout simplement dans un carton à dessin très facile, on prend le train. Ou est-ce qu'ils sont mis sous des cadres avec des cadres épais? Est-ce que c'est lourd?
Le problème du dessin, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, pour ranger dans l'atelier, c'est super pratique, j'ai des grands cartons et je mets tout, mais j'ai une quantité de cadres pas possible, parce qu'un dessin, pour pouvoir l'accrocher et le présenter, il faut qu'il soit obligatoirement encadré, ce qui signifie un passe-partout, un sous-verre. Sous-verre, c'est lourd, ça peut casser, donc... Voilà, c'est très encombrant, contrairement... Quand il faut exposer, ça devient encombrant.
Et vous travaillez avec qui pour l'encadrement? Vous le faites vous-même ou vous passez par quelqu'un du coin?
En fait, j'ai plusieurs... Soit je vais dans des lieux où ils vendent des cadres pas trop chers pour les choses moins... Enfin, je sais pas comment dire le mot, mais...
Plus abordable.
C'est-à-dire, par exemple, là où j'ai rencontré... où on s'est vu en présentiel pour la première fois, c'est-à-dire au Grand Palais, pour des lieux prestigieux comme ça, je fais faire des cadres sur mesure avec des verres muséaux, c'est-à-dire des verres anti-UV, enfin des verres... Mais ces verres-là, c'est des gros budgets. Donc j'ai un maximum de cadres pas chers, et pour des lieux prestigieux, j'investis, sachant que j'ai remarqué que il y a ceux qui achètent, qui ont le coup de cœur pour mettre chez eux, etc. Mais en fait, on est confronté à deux sortes de clientèle. On a les collectionneurs. Et les collectionneurs, c'est particulier. Donc chez eux, leur mur, leur espace, il n'y a plus... on ne voit même plus la couleur de leur papier peint ou s'il y avait du papier peint. C'est archi... Et souvent, eux, ils achètent non encadré et ils encadrent...
Et dans le style de la maison, quoi.
Non, pas dans le style de la maison, parce que c'est... Non, mais il faut... Moi, je sais que j'ai un collectionneur autrichien qui me disait, mon encadreur, il doit être super riche, parce que, ils savent que... La majorité de nos cadres, on met des verres comme ça. Et lui, il fait tout réencadrer, verre muséum, etc. Ce que moi, je ne pourrais pas me permettre. Donc souvent, eux, ils font réencadrer avec des choses vraiment de qualité, de protection intéressante.
Et pour vous, Valem, le transport des œuvres, comment ça se passe? Il y a un camion, il y a un 33 tonnes.
Alors, moi, j'ai une camionnette qui me rend beaucoup, beaucoup de services. Parfois, elle ne suffit pas sur les grosses expos, mais dans la plupart des expos, j'arrive à m'en sortir avec. Il y a les bronzes, le problème, c'est le poids. C'est très lourd. Par contre, enveloppées dans une couverture, ça se transporte assez facilement. Et les terres, en revanche, c'est une autre logistique. Chacune de mes terres a une boîte en bois que je fabrique moi-même sur mesure, et avec des cales à l'intérieur pour qu'elle soit entièrement sécurisée. Donc, il y a du travail en amont et de la logistique aussi, parce que c'est beaucoup plus encombrant au poids. C'est aussi super sécurisant de pouvoir les transporter dans ces conditions.
Et vous savez où est-ce qu'on met vos œuvres? Est-ce que vous avez des anecdotes sur, une œuvre dans les toilettes ou quelque chose où... Moi, je sais que j'ai des artistes qui sont dans mes toilettes, parce que j'aime bien les voir dans les toilettes. C'est l'endroit où je passe du temps tout seul, donc... Voilà. Est-ce que des fois les acheteurs vous envoient « Ah, je l'ai mis à cet endroit-là » ou...
Moi, on ne m'a jamais envoyé de photos où ils étaient dans les toilettes. Mais peut-être que ceux qui font ça,
ils le cachent.
Ils ne me l'ont pas envoyé la photo. Parce que tout le monde ne me renvoie pas des photos, mais j'en ai certains et j'aime bien quand on m'envoie la photo et que je vois où ça a été placé.
Ouais, c'est la vie de l'œuvre après, quoi.
La vie de l'œuvre après, leur compagnie, à côté de qui ils sont, avec qui. Des fois, j'aperçois quand le collectionneur m'envoie, ceux qui ont les murs remplis, quand ils m'envoient les photos. Et puis tout d'un coup, que j'aperçois une petite sculpture en bas ou un autre truc à tel endroit, je dis « Oh, mais cet artiste, je le connais, on a un collectionneur en commun !» Donc ça, c'est les toilettes...
Pas encore.
Non, pareil, les cuisines, je pense que c'est pas top.
Non, bah les bronzes dans la cuisine, ça peut passer. Donc.
Ah ouais, j'ai des exemples. Bon, après, c'est des intérieurs aussi qui le permettent. Hein, mais je sais que j'ai une de mes acheteuses qui a plusieurs sculptures de moi. Et notamment, elle a une grande cuisine avec un îlot central très grand. Et elle a une de mes sculptures qui est assez grande, qui est posée sur cet îlot central. Du coup, ils se voient de partout dans la pièce. Enfin, voilà, c'est... Donc, voilà, j'ai rien contre les cuisines. Et ouais, j'aime bien, c'est super sympa, je trouve, quand les clients, ils nous envoient une petite photo de là où ils l'ont mise, et c'est assez souvent, et je trouve que c'est chouette de voir comment elles évoluent après, et dans quels environnements elles continuent à vivre sans nous.
Bah merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. On rappelle le festival qui a lieu donc à partir d'aujourd'hui à 18h, l'inauguration donc avec un concert et ensuite des artistes qui seront présents pour échanger avec vous. Ça s'appelle Oui Mais, c'est à Marueil-Lamotte, c'est à quelques kilomètres de Compiègne. Je crois que c'est une vingtaine de kilomètres au nord de Compiègne, c'est ça ?
C'est ça, une vingtaine de kilomètres au nord de Compiègne, aux alentours de Resson-sur-Mat, pas très loin de Resson-sur-Mat.
C'est aux 10 rues de... Guri.
Ouais, G-U-R-Y, ouais.
Et j'ai vu que de toute façon, c'était si on allait sur Maps ou sur un moteur de recherche classique, on pouvait tout simplement trouver ton...
Valem, ouais, on me retrouve effectivement assez facilement.
Le thème de cette année, c'est les vivants et les liens qui se tissent. Donc l'ouverture le week-end, ensuite c'est de 10h à 19h30 le vendredi et samedi, et de 10h à 16h le dimanche. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Vous avez... Où est-ce qu'on peut retrouver les informations, peut-être ?
Alors oui, donc, toutes les informations, on les retrouve sur le site web www.ouimet.org. Et peut-être juste pour l'inauguration, juste avant vers Pagaille, il y en aura aussi une petite prestation du Bruit qui court, qui est un collectif de Paris d'artistes engagés et du coup qui vient faire l'ouverture juste avant vers Pagaille avec une petite performance.
Bah merci beaucoup à toutes les deux et puis bon après-midi à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable et nous on se quitte avec Ne réponds pas d'Alba et puis on vous donne rendez-vous ce soir du coup à Mareuil. Allez, bonne journée, salut.
J'aimerais vous servir, mais j'y arrive pas. Et quand on m'appelle, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je sais pas pourquoi. Je ne réponds pas. Alors qu'au fond, comme toi, j'aime ça quand on pense à moi. Je sais pas pourquoi. Ne réponds pas.
Du 7 au 10 mai, rendez-vous à Mareuil-Lamotte pour le festival Oui Mai.
un festival d'art dans le pays des sources pour explorer dans la joie notre relation au vivant à travers l'art, avec une exposition collective, des ateliers, des spectacles, des performances et des concerts. Le festival 8 mai, c'est du jeudi 7 au dimanche 10 mai à Mareuil-la-Motte. Restauration sur place, contribution libre et consciente. Retrouvez toutes les informations sur le site 8mai.org.